d'un Piémont tranquille, suivi de deux Siciles, une bande de Polonais, manger la grande sardine avec les gens d'Alger. En face, rouler les boules de pétanque dans la neige, l'homme se gratte et l'andouille comme un chevalier franc. La femme voyait la ville comme une maison de liège, et l'amour pétillait dans le champagne du temps. En face, on s'aimait, en face, on s'aimait, on s'aimait. Et c'était pas pour rire, même s'il y avait de la joie. En face, on s'aimait, en face, on s'aimait, on s'aimait. Qu'on avait changé le monde, mais qu'on le savait pas. Des miens avec des drapeaux rouges et des cravates parfaites. Au bord de chaque prière, l'espoir lavait les mains des athées, des dévots, des cocus, des coquettes. En face, on était beau parce qu'on était mal fait, d'un esprit débraillé, mais le cœur bien cousu. Nos jardins ouvriers et nos poitrines poilues, nos cuisines épicées et nos hanches bien moulées. En face, c'était ni pile, ni vidéo en ligne. On posait notre bière, partant manifester. Les riches avaient la trouille de nous voir fiers et dignes, crier en sicilien avec les gens d'Alger. En face, on s'aimait, en face, on s'aimait, on s'aimait. Et c'était pas pour rire, même s'il y avait de la joie. En face, on s'aimait, en face, on s'aimait, on s'aimait. Qu'on avait changé le monde, mais qu'on le savait pas. S'appelle plus comme ça, on embarque en fusée et on va dans l'espace chercher le paradis, le ciel on le dépasse pour barbeler l'étoile qu'on admirait d'en bas. En face, la maison meurt et sa pensée s'en va avec les chevaliers du boulevard Charlemagne. Les grands murs sont couchés dans leur tonne de gravats, la rue des Petites Vosges ne rappelle plus l'Espagne. Sont reconstruits dans l'argile d'une veine. Est-ce une maison nouvelle avec d'autres patois? Est-ce encore du russe blanc qu'on mêle à du slovène? Est-ce encore du vieux franc qu'on mélange aux gaulois? En face, on s'aimait, en face, on s'aimait, on s'aimait. Et c'était pas pour rire, même s'il y avait de la joie. En face, on s'aimait, en face, on s'aimait, on s'aimait. Qu'on avait changé le monde, mais qu'on le savait pas.
Rentrée des classes et cours de maths, le prof a l'air d'un psychopathe. Carton jaune et manque d'humour, c'est l'interro de le premier jour. Salut les années collège, 6 fois 5 et je retiens en. Dans une classe de 30 élèves, y a plus que 29 gamins. Mais où est donc Cornicard? On l'a pas trop calculé. Déjà 3 tonnes de devoirs, et c'est pas du bon français. Un pour tous et tous pourris. c'est par ici la sortie. Mais où est donc Kornikar, Vladimir et Ismaïl? Pour Kamal et Boubacar, quelle horreur est-il? Vite en français, dissertation, et c'est maintenant que ça se complique. Liberté, j'écris ton nom, mais sans papier, c'est pas pratique. D'ailleurs, l'histoire, c'est tout comme on a la guerre d'Algérie. Sauf qu'au pays des droits de l'homme, c'était chouette, les colonies. Alors en sciences naturelles, on pige que c'est pas gagné. Y'a le mâle, y'a la femelle, et puis y'a le sans-papier, qui est aussi un mammifère, même si on sait pas quoi en faire. Mais où est donc Kornikar, Vladimir et Ismaïl? Pour Kamal et Boubacar, quelle horreur est-il?
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
On va essayer de s'intéresser au sujet. Et...
Ah, alors oui, là, on a une petite... Voilà. Oui, alors, ben voilà, aujourd'hui, c'est un son que nous vous proposons. Sont trouvés sur le site du réseau français sur l'entente de voix, rêvefrance.org. Une histoire des idées en psychiatrie. C'est une conférence de la docteure Anna Balège, personne transféminine, médecin, psychiatre, sexologue, doctorante en santé publique à l'Université de Tours. Sur la question de la promotion de la santé des personnes trans. Voilà. Donc, elle est auteure d'une thèse de l'exercice de médecine sur la question de la dangerosité de la privation de liberté, et auteure aussi de plusieurs travaux sur l'épistémologie, c'est-à-dire l'étude des savoirs. Et donc, autour de la psychiatrie, la docteure Anna Balège a un discours critique. Et donc, c'est pour cela que nous vous proposons de l'écouter. Donc, c'était à l'occasion d'un forum du Rêve France en date du 10 décembre 2022 dans le cadre de la série Aux sources de la pensée psychiatrique, l'enquête participative dont vous êtes l'héroïne. Voilà, c'est donc sur rêvefrance.org qu'on peut entendre l'intégralité de cette conférence de Anna Balège. Et là, nous vous en proposons un extrait d'un peu moins d'une heure. Alors voilà, on a entendu un petit peu.
On va essayer de s'intéresser au sujet, et le sujet, c'est les savoirs psychiatriques. Comment ça se fait que tout d'un coup, dans notre tête, on commence à se dire que les gens sont malades mentaux?
Voilà. Bon.
Alors, pour expliquer ça, moi, je vais, parce que mon boulot, c'est surtout intéressé à ça, en fait, hein, c'est plutôt par ignorance que je m'intéresse à ça. Je vais me centrer sur les deux derniers siècles, qui sont le 19e et le 20e siècle, enfin, concrètement. Donc, du coup, on va démarrer début 19. Début 19e, l'Occident, parce qu'il n'y a que ça dans le monde, hein, les autres pays et les autres cultures, on s'en fout, l'Occident traversait globalement une crise existentielle, puisque en fait, on était en train de remplacer les gens avec des couronnes par des gens avec des chapeaux. Et concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on passait d'une société qui était une société construite de manière féodale, c'est-à-dire où des êtres humains ont le pouvoir sur d'autres êtres humains, à une société qui était une société républicaine puis démocratique, c'est-à-dire une société où des êtres humains ont le pouvoir sur d'autres êtres humains, mais c'est pas les mêmes règles. Et en fait, au final, le passage d'un type de société à l'autre type de société, c'est principalement une réécriture des règles. Mais globalement, c'est à peu près toujours les mêmes personnes qui sont restées au pouvoir tout le long du système, et toujours les mêmes personnes qui sont restées en bas, et les tâches sont globalement les mêmes. Et donc, au final, c'est une histoire d'histoire. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment les gens voient le monde, parce que si on comprend comment les gens voient le monde, on comprend comment ils écrivent les histoires du monde, et du coup, ouais, on comprend comment est-ce qu'on peut les critiquer. Vous pensez que j'ai un trouble bipolaire, et quand vous dites ça, j'ai bien compris qu'en fait, ce que vous pensez, c'est que si on me découpe sur une table, à l'intérieur de moi, on va trouver un trouble bipolaire quelque part. Et d'ailleurs, ça fait 2 siècles que vous découpez des gens pour essayer de les trouver, donc quelque part, vous cherchez bien ça. Et donc, du coup, ça, c'est une vision essentialiste. Et la vision essentialiste, quelle qu'elle soit, elle a des failles. Et une des grosses failles de la vision essentialiste, c'est qu'elle rend pas compte que les gens, ils existent dans un système. Je suis pas tout le temps bipolaire. Je suis pas bipolaire quand je suis avec mon doudou, ma doudou. Je suis pas bipolaire quand je suis au travail. Je suis pas machin, je suis pas bipolaire. Je suis ça quand je suis dans un système. Et même quand je le suis tout le temps, au final, si je pars, je le suis plus. Donc c'est une question de place dans un système. Et donc du coup, ces visions-là, elles ont changé. On n'avait pas ces visions-là au début du 19e. Au début du 19e, on était en train de reconstruire une société parce que, en gros, les paysans étaient pas contents et il fallait trouver une nouvelle façon de faire en sorte que les paysans se ferment leur gueule. Et après, il y avait un jeu de pouvoir pour savoir qui allait récupérer les chaises qui étaient vides du régime d'avant. Donc nous, la France, on sort de la dictature avec Napoléon, on arrive sur le premier système républicain, et donc du coup, on se dit « Ok, il va falloir qu'on organise la société ». Et la société qu'on a organisée là, tout de suite, on va dire 1820, elle n'est pas très 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 différente de la société de 1780 où ça a été le bazar. Il n'y a pas énormément de changements, mais il y a beaucoup de changements d'esthétique. C'est-à-dire qu'on va changer les histoires qu'on raconte et on va changer comment est-ce qu'on fait les choses. Et un des gros changements qu'on a fait, c'est que comme on a supprimé les bonhommes magiques, les êtres de droit divin, les dieux, les rois, les seigneurs, les gens qui avaient du pouvoir, qui étaient magiques en fait. On a enlevé les gens magiques et on a dit il y a plus de gens magiques. Maintenant c'est la personne magique, c'est le peuple. Bon, ok, c'est le peuple. Du coup, il faut qu'on trouve une façon de faire en sorte qu'on fasse la même chose qu'avant, sauf que maintenant, ça sera le peuple qui le fera. Et donc, du coup, on a travaillé sur les esthétiques sociales. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en application plein d'écrits qui datent des deux siècles précédents, où à l'époque, c'était des gens intelligents, quoi, qui faisaient passer leur vie à rien faire, à part réfléchir, qui écrivaient ces bêtises-là. Et du coup, on s'est dit, on va faire ça. Et donc, ce truc-là, c'est assez classique hein, dans l'histoire des sciences, c'est-à-dire que vous avez des savoirs qui sont très, très peu situés, et puis après, ils commencent à se répandre dans une classe sociale qui a du pouvoir, et après, ils commencent à se répandre dans le pouvoir, et au bout d'un moment, ils prennent toute la société. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Et donc, du coup, on a agi au début du 19e siècle sur deux grands trucs qu'on va discuter, qui sont des petits concepts pas forcément évidents, mais voilà, qui s'appellent les paradigmes et les idéologies. Et quand je dis paradigme, je dis paradigme au sens de Thomas Kuhn. Et quand je dis idéologie au sens de Foucault, Fairclough et Vodak et cette façon-là. Parce qu'il y a beaucoup de définitions sur ces choses-là. Donc, je vais essayer de les définir. Un paradigme, c'est comment est-ce qu'on voit le monde. Concrètement, tout le monde ne voit pas le monde de la même façon. Ça, on le sait. Le même monde n'est pas vu pareil. Et moi, j'aime bien expliquer ça aux gens quand j'essaie d'expliquer ça aux gens en disant, imaginez, vous avez une table et puis il n'y a rien dessus et tout d'un coup, on met des Playmobil dessus. Et là, maintenant, je vous dis, qu'est-ce que vous voyez? Et ben, comment vous allez décrire la table? Ça, c'est vos paradigmes. Par exemple, si vous allez me dire, bah, sur ma table, je vois qu'il y a des hommes et des femmes, ça veut dire que vous partez du principe que dans la réalité, il y a des hommes et des femmes. Et ça peut paraître une évidence maintenant, mais c'est intéressant parce que ce paradigme-là, il a été posé à ce moment-là de l'histoire, au début du 19e siècle. C'est au début du 19e siècle qu'on a inventé les femmes. Parce que ça n'existait pas avant. Hein? Avant, il y avait des êtres humains féminins, il y avait des êtres humains de sexe féminin, mais il n'y avait pas de femmes. La femme en tant que classe sociale, ça a été inventé au début du 19e siècle, et ça a été inventé pour asseoir ce qu'on appelle du coup un paradigme, une vision du monde, et en l'occurrence, la vision du monde s'appelle le paradigme de la différence sexuelle, c'est-à-dire de dire les êtres humains sont découpés en deux sexes, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. On n'avait pas ça avant, parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir ça avant. Avant, on avait un seul être humain et le sexe, c'était la conséquence de désordres de température interne qui étaient fixés différemment. Enfin, on avait une autre histoire parce qu'on s'en foutait, en fait. Mais maintenant, on avait besoin de créer un groupe homogène pour les... Et du coup, on a créé les femmes et on a posé le paradigme et on a dit, voilà comment il faut voir ce qu'il y a sur la table. On a posé un autre gros paradigme à ce moment-là. On a posé celui de la différence mentale, si on veut garder la même façon de nommer. On a dit, il y a dans la société humaine des gens qui sont sains d'esprit et de l'autre côté, des gens qui sont fous. Alors qu'avant, on avait les mêmes personnes, mais on ne posait pas les choses comme ça parce qu'en fait, on n'en avait rien à faire de savoir s'ils étaient sains d'esprit ou s'ils étaient fous. La question, c'est est-ce qu'ils avaient offensé un tel ou est-ce qu'ils foutaient le bordel dans la ville? Si c'était le cas, on les enfermait, on les envoyait au bagne. Il n'y avait pas besoin de mettre une étiquette de fou à l'époque puisque le bonhomme magique tout puissant, il décide à la place de tout le monde. C'est mieux que tout, c'est lui qui sait. Maintenant qu'on n'a plus de bonhomme magique tout puissant, on a besoin de dire d'un côté il y a des fous, de l'autre côté il y a des pas fous. Maintenant qu'on n'a plus de bonhomme magique tout puissant, on a besoin de dire d'un côté il y a des hommes, de l'autre côté il y a des femmes. Et en fait, on a réécrit toute une grande partie des paradigmes comme ça à ce moment-là, qui sont des évolutions normales des sciences. Hein. Les paradigmes, ça évolue. Pendant un temps, on pensait que le soleil tournait autour de la Terre, parce que, évidemment. Et puis après, on s'est dit, bah, en fait, non. Et puis, ça a fait un changement de paradigme. Et tout d'un coup, on s'est dit, ah, bah, c'est plus comme ça qu'on voit les mêmes choses qu'on voyait avant. C'est juste qu'on voit la même truc. La réalité a pas changé, mais l'histoire qu'on raconte, elle est pas la même. Et donc, du coup, on a ancré ces paradigmes-là. Et en ancrant ces paradigmes-là, on a ancré différentes choses dans la société. Et la société française, c'est un super bon exemple de ça. On a, en gros, découpé la société en trois morceaux, qui sont d'un côté les hommes blancs, cis, hétérosexuels, enfin, il y a plein de caractéristiques, on entend beaucoup se dérouler là, mais d'un côté, il y a les hommes blancs, de l'autre côté, il y a les femmes blanches, et du troisième côté, il y a les dégénérés. Et en gros, la société, elle est faite comme ça. Et si vous voulez, après, dans les dégénérés, on coupait en deux parce que d'un côté, il y avait les fous et de l'autre côté, il y avait les sauvages. C'est-à-dire qu'il y avait les dégénérés qui venaient d'ailleurs sur la planète et les dégénérés qui venaient de chez nous. Et globalement, le découpage était fait comme ça. Et il n'y avait pas d'hommes et de femmes dans les dégénérés. C'est-à-dire que quand vous regardez, moi j'ai fait ça pour ma thèse, hein, allez lire, vous allez sur Gallica et vous allez lire les vieux bouquins de psychiatrie d'il y a un siècle ou deux, ils sont en libre accès, des PDF de 100 mégas, voilà. Faut avoir vraiment rien à foutre de sa vie, mais si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que même Enrique Lombroso, qui sont des criminologues du milieu 20e, quand ils faisaient des tableaux où ils mesuraient les crânes des êtres humains, les colonnes, c'était hommes, femmes, sauvages, criminels et fous. Sauvages, criminels, fous, c'est pas des catégories qui ont des genres. Les genres, c'est pour les vrais gens de la société. Ces gens-là, ils n'ont pas de genre. Et donc, du coup, c'est important parce que si le genre, il n'existe pas dans cette catégorie-là, c'est que le genre, intrinsèquement, il n'est pas une évidence de la nature, il est une façon d'organiser. Donc, en fait, quand on regarde, il y a d'un côté la population souhaitée, de l'autre côté la population pas souhaitée. Dans la population souhaitée, il y a les hommes et les femmes. Dans la population pas souhaitée, il y a les criminels et les fous. Et en gros, quand vous avez fait ça, vous avez fait à peu près toute la découpe de la société du XXe siècle. Et donc, du coup, après, il faut mettre des petits systèmes en place pour ces choses-là. Donc, il y a des systèmes pour les hommes. Ils ont leur travail, les machins. Il y a l'armée, bidule, etc. Il y a des systèmes pour les femmes qui font la popote et tout. Il y a des systèmes pour les fous. Il y a des systèmes pour les criminels. Et donc, la naissance de la psychiatrie, c'est la naissance de la bataille entre, d'un côté, les médecins et de l'autre côté, la justice sur qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là. Qu'est-ce qu'en fait ces gens-là et comment est-ce qu'on va découper cette population-là en termes de pouvoir? Qui a pouvoir et qui a autorité sur qui? Et donc ça, c'est 1820 jusqu'à 1840 à peu près, notamment ça s'arrête avec la loi de 38, mais c'est ce moment-là en France en tout cas où vous allez avoir du coup le système judiciaire qui se met en place parce qu'on peut plus avoir le bonhomme magique qui envoie les gens en prison, donc on a fait des juges et des machins et des trucs et des tribunaux et donc on fait le jugement et là il y a des gens qui disent non mais cette personne est trop folle pour être jugée, elle ne dépend pas de la justice comme les autres citoyens, elle dépend d'un autre truc, vous ne pouvez pas décemment condamner cette personne, elle est tarée. Ah oui, mais comment est-ce qu'on sait? Et là, il y a les médecins qui arrivent et qui disent « nous, on sait ». Et donc, du coup, en disant « nous, on sait », on a une prise de pouvoir des médecins sur le pouvoir judiciaire avec une grosse tension entre les juges et les médecins. Et là, c'est là qu'on se dit « ok, on sait », mais du coup, il faut qu'on crée un savoir. Et du coup, là, on a créé l'aliénisme. Et l'aliénisme, qui est la discipline qui a précédé la psychiatrie, c'est une discipline qui est née d'un besoin social qui était de dire « on a besoin d'avoir quelqu'un pour virer ces gens-là de la société ». Et donc, tous les savoirs de l'aliénisme se sont construits autour de cette idée-là. Le gros diagnostic phare de l'aliénisme, c'était la monomanie. Et la monomanie, c'est une maladie, en gros, c'est une maladie mentale à l'époque, c'était une aliénation. C'est une aliénation dont il n'y a plus de traces au moment où vous rencontrez la personne, mais l'aliéniste, il ou elle, sait qu'il y avait ça au moment des faits. Enfin, je veux dire, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que vous avez zéro symptôme, vous avez un diagnostic, et on rigole, mais il y en a plein des comme ça encore aujourd'hui. Et donc, du coup, ouais. L'idée, c'était de se dire, c'était d'asseoir cette histoire-là. Et donc, une grosse partie des histoires qui sont créées à ce moment-là, c'était ça. Et on a créé le prototype de tout ce qui est devenu les gros troubles psychiatriques, comme on dit, hein, les gros diagnostics, à ce moment-là. Sauf qu'à ce moment-là, on était dans une conception qui n'était pas la même conception que maintenant, on était dans une conception morale. Et on entend beaucoup ça, le traitement moral et les choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire moral? Moral, ça veut pas dire qu'on faisait la morale aux gens ou quoi que ce soit. Moral, ça veut dire qu'en fait, les gens, ils étaient dégénérés à cause de leurs vices. C'est-à-dire que c'est leur façon de vivre et leur comportement et leur mode de vie qui les a amenés à décrocher par rapport au reste de l'espèce humaine. Et maintenant, ils sont dans un état inférieur. Et notre boulot à nous en tant que médecins, c'est sûrement pas de les soigner, ils sont pas malades. C'est d'essayer de leur proposer une façon éthique et digne de pouvoir vivre dans la société. Et par éthique et digne de pouvoir vivre dans la société, ce que je veux dire, c'est les parquer comme des animaux dans des établissements à la campagne enfermés où ils sortiront jamais. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, du coup, quand on dit morale, c'est comprendre c'est la morale au sens début 19e siècle, la religion est pas encore séparée de l'État, la religion est sûrement pas séparée des sciences, elle l'est toujours pas, elle est très très ancrée dedans, il y a une bonne et une mauvaise façon de se comporter. Quand vous prenez les aliénés dans les asiles et que vous les faites travailler, vous ne les faites pas travailler parce que vous les exploitez économiquement, ça serait monstrueux. Vous ne les faites pas travailler pour les guérir parce qu'ils vont pas guérir par le travail. Vous les faites travailler pour les remettre dans le droit chemin, pour prévenir de futures dégénérescences, parce que c'est ça qu'une personne doit faire de sa vie. Et donc, vous essayez de leur rendre au maximum un semblant de vie normale pour les maintenir. Donc, on est dans une logique, voilà, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de sortie de quoi que ce soit, et c'est purement de l'exclusion. Et ce truc-là a pas bien marché. Ce truc-là s'est écroulé sur la fin du siècle à cause, principalement parce que c'était stupide et arbitraire, et que les rivalités entre les juges et les médecins, et que les journalistes sont venus médier ça, ça a été un bazar social, et du coup ça a changé de peau et ça a fait peau neuve, comme Facebook est devenu Meta, et en fait l'aliénisme est devenu la psychiatrie, et ça a marché parce qu'il y avait pendant un temps, genre en France 1870, l'opinion publique elle était contre les asiles. Et on a des journalistes qui revenaient d'avoir été internés là-dedans, qui racontaient comment ça se passait et les gens étaient choqués. Et la population, l'opinion publique était outrée sur ce qu'on faisait aux gens dans les asiles. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que il y a une nouvelle génération de jeunes aliénistes qui ont dit, c'est n'importe quoi ce que font les vieux. Ils sont horribles, ils sont monstrueux. Nous, on est jeunes et on sait quoi faire parce qu'il y a quand même un besoin, on va pas se leurrer. Et en fait, on va faire de la science. Et donc, du coup, on a continué à ancrer cette idée qu'en fait, on a renouvelé l'histoire. On a renouvelé l'histoire et donc les problèmes qui étaient des problèmes moraux sont devenus des problèmes biologiques. Et ce qui était des aliénations sont devenus des maladies mentales. Et les traitements qui étaient des traitements moraux sont devenus des traitements physiques et biologiques. Et donc voilà. Mais c'était toujours les mêmes personnes enfermées dans les mêmes endroits, par les mêmes personnes, par le même corps professionnel, avec les mêmes devenirs et les mêmes trucs. Mais l'histoire avait énormément changé. C'est-à-dire que là, maintenant, vous pouviez répondre au public en disant, bah non, on n'enferme pas arbitrairement les gens. Ces gens-là, ils sont malades. On les soigne. C'est du soin, ce qu'on fait. On n'est pas des monstres. Et donc, du coup, on a commencé à soigner les gens. Donc, on soignait les gens de manière monstrueuse. On les électrocutait. On leur mettait des comas et taux de mortalité gigantesques. On coupait des morceaux de cerveau. On a fait un prix Nobel, d'ailleurs, pour ça. Enfin, bref. Et donc, du coup, on a beaucoup bossé sur comment s'occuper des gens à l'intérieur de ces environnements. Et du coup, on a développé une logique extrêmement biologisante. Et donc, du coup, il fallait qu'on fasse ça. Et le prérequis, maintenant, quand vous vouliez être un savoir à ce moment-là de l'histoire, c'était il fallait être biologique et il fallait rentrer dans la mouvance. Parce que bêtement, si vous n'êtes pas dans cette mouvance-là, bah déjà, de un, vous n'existez pas. Parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas vraiment beaucoup d'autres façons de comprendre le monde. Donc, vous n'existez pas. Et quand bien même vous existeriez, vos recherches sont pas financées. Vos travaux ont pas de portée. Personne ne vous écoute. Et les gens vous attaquent en disant que vous faites n'importe quoi. Vous mettez les gens en danger. Donc, de toute façon, il n'y a pas d'autre façon de penser. Parce que la seule possibilité pour produire du savoir, c'est de produire du savoir qui argumente ça. Donc, on a produit plein de savoirs qui argumentent ça. Et on a trouvé ça tellement pertinent qu'on est allé voir les autres disciplines médicales et qu'on leur a dit, les gars, ça vous dirait pas qu'on fasse un projet commun? Et on a fait un projet commun avec les autres disciplines médicales et c'est la psychiatrie qui a initié ça. Et on en est très fiers et ça s'appelle l'eugénisme. Et donc, l'eugénisme, c'était le grand projet de la discipline quelques années après son lancement au début du 20e siècle, qui était de dire, les gars, on peut améliorer l'espèce humaine et c'est trop cool. Ouais, il y a une main levée. On peut parler, hein, faut me couper la parole, hein, j'insiste vraiment parce que je parle. Hein. Non ? Bon, en tout cas, si on me coupe la parole, je me tais. Et donc, du coup, on a lancé cette idée de l'eugénisme et c'était top. Hein, on faisait des affiches, des posters, on revendiquait ça. Hein, je veux dire, on va améliorer l'espèce humaine, c'est fini, la fin des maladies, la fin de la souffrance. Hein, je veux dire, la psychiatrie a sauvé le monde. Et donc, du coup, on a développé ce truc-là et ça s'est quand même plutôt bien développé. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, ok, on sait pas ce que les gens ont, mais on sait qu'ils ont un truc, puisqu'il faut qu'ils aient un truc, sinon il faut qu'il y ait une raison pour qu'ils soient pas dans la société. Donc, ils ont un truc. On sait pas ce que c'est, mais ce qu'on sait, c'est que c'est probablement incurable et héréditaire. Voilà. Ça, c'est sûr. Position de départ. Donc, si la position de départ, c'est que c'est incurable et héréditaire, c'est quoi la suite logique? Bah, la première suite logique, c'est, bah, stériliser les gens. Faut surtout pas qu'ils le, c'est héréditaire. Faut pas qu'ils le donnent, faut pas les laisser se reproduire. Donc, on a commencé à stériliser tout le monde. Les premiers, c'est les Américains. Les Scandinaves ont suivi. 1904, je crois, la première loi de stérilisation de tête. Et voilà. Donc, c'était stérilisation et on stérilisait cette population. Et cette population, à l'époque, c'était les criminels, les fous, c'était ça, principalement les criminels et les fous, et les violeurs. Les violeurs, ça a toujours été une catégorie un peu à part de criminels. Et donc, ces trois catégories-là, on les stérilisait de principe. Et ça, ça a été mis en place assez rapidement dans les pays qui étaient très eugénistes, notamment les pays anglo-saxons avec une volonté de, une pensée anglo-saxonne. Donc, les États-Unis, les pays scandinaves. Et puis, la logique, c'est pas juste de leur empêcher de faire des enfants. Le problème, c'est qu'à côté de ça, est-ce que c'est éthique de les laisser vivre, ces gens-là? Eh ben c'est cool parce qu'ils ont vraiment posé la question. Et donc il y a un bouquin qui est vachement intéressant qui a été la censure a été levée dans les années 70 qui s'appelle la destruction des vies dénuées de valeur. Enfin le titre est un petit peu plus long. C'est par le Binding et Hoche qui donc c'est un psychiatre et c'est un juriste et les deux ont fait un bouquin d'éthique sur justement comment est-ce qu'on définit qu'une vie a de la valeur. Et quel est le meilleur traitement à donner aux vies qui n'ont pas de valeur? Et donc ça, c'est arrivé dans un contexte qui est bien particulier, qui est le contexte de l'Allemagne, des années 20 aux années 30, l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, qui a été coupée économiquement, qui avait pas de thunes, et qui du coup, concrètement, dans son système de santé, n'avait pas d'argent. Parce que les gens, à l'époque, ils ont préféré investir dans le système économique en se disant que ça va faire monter la croissance et je sais pas quelle connerie. Et du coup, il n'y avait pas de thunes en santé, les gens mouraient. Et donc du coup, comme ils pouvaient pas soigner les gens, ils se sont dit, pour chaque personne handicapée que je tue, je peux soigner X autres personnes qui n'est pas handicapée. Et ils sont mis à exterminer les personnes en situation de handicap et ils ont fait un programme d'euthanasie nationale qui a été mis en place fin des années 20 et qui a été arrêté officiellement en 1933 quand Hitler est arrivé au pouvoir puisque il a jugé ça inhumain et il l'a fait fermer. Et puis qu'en fait, il s'est pas arrêté et qu'il a été réouvert un petit peu après à l'occasion de trucs assez dramatiques que tout le monde connaît de la Seconde Guerre mondiale, qui sont quand même de se dire que à ce moment-là de l'histoire, dans le continent européen et dans d'autres endroits du monde, mais notamment ce qui s'est passé au niveau du continent européen, c'est que ces gens qu'on parquait dans des asiles, ces gens qu'on mettait à la marge de la société et dont on ne voulait pas dans la société, on s'est mis à les exterminer de manière systématique et à les transformer en ustensiles du quotidien. Et si je fais ce lien-là, c'est pas juste pour faire un point Godwin et parler de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi parce que l'infrastructure d'extermination systématique, elle a été construite par la psychiatrie allemande, qu'il y a des papiers là-dessus, et que moi, si les gens veulent des sources là-dessus, c'est aucun problème, que l'infrastructure épistémique, la façon qu'on a de comprendre le monde, qui a construit la psychiatrie, notamment avec l'eugénisme et tout, a complètement assis la pensée d'extrême droite qui arrive au pouvoir à cet endroit-là. Et ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que même si la focalisation historique, elle est sur l'extermination du peuple juif, qui est une très grosse composante de la Seconde Guerre mondiale, le peuple juif à l'époque, c'était pas le peuple juif de maintenant. Je fais notamment référence à tout ce qui a été fait en termes de psychopathologisation au début du XXe siècle sur les personnes juives, à la fois dans les écrits de Freud et plein d'autres choses. Enfin, faut quand même pas oublier que c'était globalement le même bateau. C'est-à-dire cette idée de se dire qu'il y a des gens qui portent en eux une dégénérescence héréditaire incurable dont il faut se débarrasser. Et donc du coup, les moyens d'extermination des différentes populations n'ont pas été exactement les mêmes, mais globalement ce qui s'est passé, c'est que les populations qui étaient concernées par les solutions asilaires un siècle avant se sont retrouvées dans une logique d'extermination, à quasiment aucune exception. Et du coup, ces populations-là, c'est principalement les personnes folles, les personnes queer et les personnes LGBT, les personnes qui font du travail du sexe, les personnes avec une situation de handicap intellectuel ou de handicap moteur, c'est toute cette population-là de gens dont on ne veut pas. C'est les indésirables de la société et on veut qu'ils disparaissent et par le passé, on a essayé de les faire disparaître. Et cette étape de la Seconde Guerre mondiale, elle est vachement importante quand on essaie de comprendre l'histoire de la pensée médicale, parce que la Seconde Guerre mondiale, ça a été un tournant assez important dans la pensée médicale, notamment parce que dans les procès de Nuremberg, le procès du deuxième jour, c'était le procès des médecins. Et donc, du coup, c'était le procès des médecins du régime nazi. Et le procès des médecins du régime nazi, il est pas intéressant dans les faits, parce que les faits sont glauques et juste tristes. Le jugement des médecins, il est intéressant parce que le jugement est devenu ce qu'on a appelé le code de Nuremberg, qui n'a jamais été un code, hein, c'était le jugement qui a été mis à ce moment-là. Et ce code de Nuremberg a servi de trame à la déclaration d'Helsinki, qu'on utilise encore à l'heure actuelle en recherche, qui est une déclaration de protection de la personne humaine. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on mettait dans l'histoire de l'humanité, dans un texte législatif, l'idée du consentement de la personne face à un médecin. Mmh. C'est pas la première fois que c'était là, l'idée. Parce que l'idée du consentement, elle était là depuis le début de la création de la médecine, etc., etc. C'était les valeurs, le serment, tous ces trucs-là, quoi. Elle a toujours été là. Mais la première fois qu'on le met dans un texte juridique, c'est à cet endroit-là. Parce qu'avant, c'était une évidence que les médecins travaillaient avec le consentement des gens et qu'ils faisaient toujours les choses qui étaient bien. Et là, pour la première fois, on a vu des médecins faire des trucs tellement horribles qu'on était obligés de les punir. Et en fait, il fallait ça pour pouvoir punir les médecins. C'est une autre façon de le formuler. Et la punition qu'on a fait aux médecins, c'est qu'on a commencé à poser la notion du consentement dans un point de vue juridique. Parce qu'avant, les médecins et les juges étaient deux corps de métier qui se faisaient la guerre. Et quand on a commencé à mettre des lois sur le consentement, on a hiérarchisé la loi, la justice au-dessus de la médecine en disant la justice peut attaquer la médecine et la médecine, elle est bloquée. Et il y a plein d'instances comme la criminologie, l'expertise médicale, etc., qui sont des tentatives de reprendre du pouvoir dans cet équilibre entre les institutions. Mais du coup, la Seconde Guerre mondiale, elle a fait ça. Et c'est parce que en 1946, au procès de Nuremberg, on a fait ce procès-là pour les médecins, qu'on a eu la loi de 2002 sur le droit des malades en France, et la loi qui permet la personne de confiance, définit clairement la question du consentement et qui pose l'infraction pénale, la liberté d'accès au dossier médical, des choses comme ça. C'est des choses qui sont nées de l'extermination systématique de la Seconde Guerre mondiale et des conséquences qu'il y a eu. Et un autre truc qui est vachement important qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, c'est on a changé la vision qu'on avait de l'humanité. Parce qu'en fait, il y a eu tellement de choses horribles qui se sont passées en très peu de temps que pour beaucoup de gens, ça a fait un clic assez fort qui fait que du coup, les paradigmes ont commencé à bouger. Les façons qu'on avait de voir le monde a commencé à bouger. Parce que ça marchait pas la façon qu'on avait de voir le monde avant. Et là, on a commencé à créer du glissement, on a commencé à décrire la réalité différemment. Et donc, du coup, on a eu un exemple de ça, c'est on a commencé à créer la notion de genre. La notion de genre, c'est arrivé à cet endroit-là de l'histoire. Ça veut dire qu'avant ce moment-là de l'histoire, il n'y avait pas la notion de genre. Et c'est pas parce qu'elle était cachée dans les hautes herbes et qu'on l'avait pas trouvée. C'est parce qu'on n'avait pas eu besoin d'aller la chercher, la notion de genre, avant ce moment-là. Et là, à ce moment-là, on a eu besoin d'aller chercher la notion de genre. Et on a eu besoin d'aller chercher la notion de genre pour deux grandes raisons historiques. Un, on a enfin compris que c'était pas pareil une femme trans et un homme homosexuel. Parce que ça, c'était des années 70 que la psychiatrie fait la différence entre les deux. Avant les années 70, c'était la même catégorie. C'était n'importe quoi. Des gens qui veulent jouer à être des hommes, qui veulent jouer à être des femmes. Et donc, du coup, on a ce truc-là. Mais ce truc-là, il découle de combats sociaux et de déroulés sociaux qui font qu'en fait, on n'aurait pas eu la notion de genre un siècle avant parce qu'on n'en avait pas l'utilité. Et ça, c'est important, c'est que les savoirs qu'on développe, les recherches qu'on fait, les façons qu'on a, les objets qu'on construit, on les construit parce qu'on en a l'utilité. Ils servent à quelque chose. Et on fait pas ça au pif. On vient pas de financer des dizaines de millions d'euros à Marion Le Boyer pour une recherche de psychiatrie précision de la con là, parce que c'est ça qu'il faut faire. On le fait parce que c'est là qu'on veut des résultats. Et donc du coup, on cherche là où on veut trouver. Et ça, c'est important. Et du coup, les gens qui ont commencé à comprendre ça, c'est là qu'est né le constructivisme. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ces atrocités qu'on a commis, ces schémas qu'on a, en fait, tout ça, c'est pas des gens, en fait. C'est-à-dire que c'est pas essentialiste. Il n'y a pas d'un côté les gentils et les méchants. Vous avez des gens comme tout le monde qui se sont retrouvés à collaborer avec le régime nazi. Vous avez des gens, vos voisins de tous les jours, qui ont commis des atrocités. C'est pas parce qu'en fait ces gens ils étaient mauvais et vous le saviez pas. Alors il y a des gens qui pensent encore comme ça, hein. Notamment c'est politique hein, les façons de voir le monde. Donc notamment du côté droite, il y a des gens qui voient encore le monde comme ça, de se dire qu'en fait chaque personne c'est un peu comme une carte à gratter et vous allez dans son dos, vous frottez avec les pièces et puis vous regardez ah criminel merde. Enfin je veux dire et il y a encore des gens qui pensent comme ça, mais il y a des gens qui se sont dit non en fait on peut pas expliquer ça par des questions d'essentialisme. Il faut qu'on essaye de comprendre qu'en fait c'est les gens dans un système. C'est-à-dire que c'est pas cette personne qui est mauvaise. C'est le système qui met la personne à cet endroit-là. Et ça, c'est le constructivisme.
Radio Libertaire, toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et on est en train d'écouter la docteure Anna Balège, Histoire des pensées psychiatriques.
Et on a commencé à penser les systèmes. Et ma discipline préférée est née à ce moment-là, la cybernétique. C'est franchement, faut lire la cybernétique. Si vous n'aimez pas, c'est que vous avez fait une erreur. C'est vachement bien la cybernétique. Il faut lire Norbert Wiener. Norbert Wiener, grand nom de la cybernétique. Si j'avais eu un père, ça aurait été lui. A écrit deux bouquins qui sont très faciles d'accès. La cybernétique, c'est une métadiscipline, c'est-à-dire que c'est une discipline qui étudie les autres disciplines et qui s'intéresse à essayer de faire des modèles simples du monde pour rendre compte comment les systèmes fonctionnent. Et c'est vachement bien. Dans le bouquin, c'est cool. Le mec, il vous démonte un autoradio et il vous explique comment marche un autoradio et après il vous explique que votre tête marche pareil et vos poissons aussi. Enfin, je veux dire, c'est vachement intéressant parce que ça vous permet d'avoir vraiment des modèles hyper simples que vous pouvez transmettre. Je kiffe. Mais du coup, les êtres humains ont commencé à s'intéresser au système. Et en s'intéressant au système, les êtres humains ont commencé à mettre en place des réponses de système. En psy, c'est là qu'on a créé la systémique. La thérapie systémique et l'approche systémique, c'est né à ce moment-là. L'école de Palo Alto et tous ces trucs-là. C'est né de ce moment-là où on a commencé à se dire, en fait, les gens dans un système. Et puis après, dans les années 70, il y a commencé à y avoir des gens qui ont commencé à avoir une division dans ce courant-là entre les gens qui ont dit, ouais, les systèmes sont comme ça, mais ils sont comme ça parce que c'est une vérité de l'univers. Et les gens qui ont dit, les systèmes, ils sont comme ça parce que ça arrange bien. En fait, ils ont une raison d'être comme ça. Ils ont une histoire d'être comme ça. En fait, on a inventé les femmes parce que on avait besoin de gens pour faire la vaisselle. Schématise, mais pas tant que ça en fait, en vrai. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une histoire assez simple, une lecture assez simple, mais pas forcément très fausse de la société, de se dire, on a coupé la tête du roi, l'empereur est mort, Il faut qu'on fasse un système. Ouais, mais il y a plein de vaisselle à faire. Bon, on a qu'à dire que c'est elle qui s'en occupe. Ouais. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé le genre. Et du coup, cette idée-là, elle est importante. Et donc, la question de la lecture post-constructiviste, c'est la question de se dire quand je suis face à quelque chose, au lieu de me dire ce quelque chose est, c'est de l'essentialisme, au lieu de me dire le rôle de ce quelque chose dans le système, c'est du constructivisme, c'est de me dire pourquoi ça et pas autre chose, en fait. Pourquoi ça et pas autre chose? Est-ce que vous pouvez me répondre à cette question-là? Pourquoi ça et pas autre chose? Et ça, c'est une question qui met vraiment mal la pensée psychiatrique. Parce que quand vous arrivez, quel que soit l'élément de la psychiatrie que vous prenez au pif, vous lui dites pourquoi ça et pas autre chose, et vous, l'interlocuteur, la personne en face ou l'interlocutrice est toujours en difficulté pour répondre. Parce que la psychiatrie, c'est quelque chose qui est construit a posteriori d'une vérité, c'est-à-dire qu'on avait déjà décidé le résultat à l'avance. Hein, le résultat, c'était il faut les enfermer et les médiquer. Et on a construit plein de savoirs pour arriver à justifier ça. Et donc, comme tout est construit sur cet objectif, et tout est dirigé sur cet objectif, si vous arrivez en disant « Oui, mais pourquoi vous n'avez pas pris un autre ?» Il n'y a pas d'autre réponse que de dire « Bah, parce qu'on avait déjà décidé à l'avance de les enfermer. » Donc, en fait, je veux dire, oui, c'est vrai que si on s'est posé la question différemment, on aurait peut-être trouvé d'autres réponses, mais c'est pas ça qu'on fait. C'est pourquoi tu poses la question comme ça. Et donc, du coup, la logique post-constructiviste, elle est là. La logique, c'est de se dire « Ouais, ok, les femmes font plus de tâches ménagères. Pourquoi ? Mais pourquoi pas autre chose, en fait ? Pourquoi ça serait pas les hommes ? Qu'est-ce que ça changerait, là, tout de suite, si je me mets à raisonner par l'absurde et que je me disais, tiens, je claque des doigts et le seul truc qui change dans la société, c'est que les hommes font la vaisselle. Surtout qu'en plus, quand ils font les tâches ménagères, ils font pas la vaisselle. Du coup, ok, ça, qu'est-ce que ça change ? Et là, je me rends compte de tout ce que ça fait bouger un peu partout. Et quand je vois tout ce que ça fait bouger un peu partout, je comprends la taille du système de tous ces trucs-là qui sont accrochés ensemble. Et je me rends compte qu'en fait, faire des parallèles entre tous les trucs, c'est pas forcément déconnant. C'est juste comment je peux argumenter qu'il y a vraiment des liens entre les choses. On va prendre un exemple super simple et super psychiatrique. On va prendre la schizophrénie. La schizophrénie, c'est top. S'il y a un adjectif à donner, c'est top. Comment ça marche? Bon, les gens étaient monomaniaques au 19e siècle. D'accord? Ça veut dire qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des symptômes pour être malade. C'est fatigue, tout le monde l'était. Il y avait d'autres exceptions. Hein. Il y avait l'hypomanie, la mélancolie. Enfin, il y avait d'autres trucs. Mais en gros, les gens étaient monomaniaques. Et après, on s'est dit, bon, ok, maintenant, on fait du biologique. Du coup, ils peuvent plus être monomaniaques, puisque ça, c'était un truc moral pourri d'avant. Du coup, il faut qu'on ait un truc maintenant. Ok, super. Comment ils sont, les gens? Ils tiennent pas la route. Ouais, ok, super. Est-ce qu'on a d'autres gens qui tiennent pas la route? Ouais, il y a des personnes âgées qui tiennent pas la route. Ok. Eh ben, tu sais quoi? On va dire que les personnes âgées qui tiennent pas la route, elles sont démentes. Et que les personnes qui sont pas âgées qui tiennent pas la route, elles sont démentes, mais c'est précoce. Et ça, c'est, ça a créé la démence précoce. Hein, la démentia précoce. La démence précoce, c'est cette entité diagnostique qui est née à ce moment-là de l'histoire et qui est de dire, les êtres humains, il y en a avec l'âge, enfin, voilà, c'est pas toujours comme du Bordeaux, quoi. Il y en a qui, ça marche pas très bien sur la fin. Et donc, du coup, il y en a qui commencent plus jeunes ce truc-là. Et les gens qui commencent plus jeunes ce truc-là, c'est la démence précoce. Et donc, comme c'est une démence, bah, c'est incurable, irréversible, machin, etc. Probablement héréditaire, parce qu'on a vu qu'il y a des familles. Et donc, du coup, voilà. Donc, pas de chance. Vous êtes tombé dément à 20 ans et puis ben c'est votre vie maintenant. Donc la démence précoce était là. Et en fait, il y a un type assez chouette qui s'appelle Bleuler, Eugène. Si vous connaissez pas Bleuler, il faut rencontrer, enfin il faut plus rencontrer parce qu'il est mort, mais je veux dire il aurait fallu rencontrer cette personne, c'était quelqu'un d'assez chouette. Notamment il a beaucoup écrit sur l'eugénisme, il a beaucoup pris le temps d'écrire sur quelle partie de l'humanité on devrait autoriser ou pas à se reproduire. Et donc du coup voilà, mais c'est aussi un des grands noms de l'histoire de la psychiatrie que tous les psychiatres connaissent parce que ça fait partie de l'histoire de la psychiatrie qu'on vous apprend. Et Bleuler, il a inventé la schizophrénie. Et quand on dit il a inventé la schizophrénie, c'est pareil, hein. C'est pas comme le constructivisme. Enfin, c'est comme le constructivisme. Hein. C'était pas dans le. La schizophrénie n'était pas dans les hautes herbes et il est tombé dessus. Enfin, je veux dire, il n'était pas sous l'histoire. C'est pas Bleuler mangeait sous un arbre, une pomme est tombée sur sa tête. Il s'est dit, Eureka, la schizophrénie. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de se dire, ok, merde, dans les gens qu'on a enfermés parce qu'ils étaient irrécupérables, il y en a qui récupèrent. Ça fait chier. Parce qu'en fait, on aurait préféré qu'il n'y en ait aucun qui récupère. Mais là, il y en a dans un environnement horrible, avec aucune perspective de quoi que ce soit, et que du mauvais traitement, il y en a qui arrivent à aller mieux. Bon, bah, fait chier. Et ben, ça, c'est la schizophrénie. Hein, à la racine de la définition de Bleuler. La définition de Bleuler, c'était de dire, non, 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 toutes les personnes ne sont pas atteintes de démence précoce, certaines peuvent s'en sortir, et celles qui peuvent s'en sortir, elles sont schizophrènes. Et là, on a posé le concept. Et ce concept, il est né à ce moment-là. Et ce concept, il a rien à voir avec ce qu'il fait maintenant, hein. Je veux dire, le mot a pas changé, l'histoire a pas beaucoup changé, mais la mécanique, elle est là. Et donc, en fait, c'était de se dire, ok, on a plein de gens qui sont parqués dans les institutions, il faut qu'on trouve une façon de les faire sortir. Bon, bah, en fait, on peut les faire sortir. On les fait pas sortir en les guérissant, C'est-à-dire, Bleuler, il n'est pas arrivé en disant « j'ai guéri la démence précoce ». Il fait pas ce qu'ils font maintenant, en disant « il y a 23 sous-types de démence précoce, et sur la démence précoce de sous-type 4, 5, 6, B, cluster 8, on peut utiliser un… » Non, il n'a pas fait ça, Bleuler. Il a dit « non, non, ce qu'on change, c'est la définition des diagnostics, c'est pas ce qu'on fait ». Il n'a pas dit « je sais soigner la démence précoce », il a dit « ça n'est pas tout le temps de la démence précoce, ça peut être autre chose ». Parce qu'à cette époque-là, le soin n'existait pas. Il faut rappeler que la psychiatrie en France, c'est sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, je crois que c'est dans les années 60 à peu près. Donc début 20, milieu 20e, jusqu'au début, de début 19e quand c'est né jusqu'au milieu 20e, c'était le ministère de l'Intérieur. On a encore des reliquats de ça, on a encore le préfet qui fout des gens à l'hôpital psychiatrique en France. On est un des seuls pays du monde où la police peut mettre les gens à l'hôpital psychiatrique.
Ah ouais.
On a ce reliquat-là dans notre histoire. Et donc du coup, à l'époque, on n'avait pas besoin de raconter des conneries de diagnostic ou de traitement, on avait juste créé une autre entité. On avait dit, eh ben, il y a la schizophrénie. Et du coup, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a créé un rôle au psychiatre de l'époque. Le psychiatre, c'est celui qui sait faire la différence entre la personne qui a une démence précoce et la personne qui a une schizophrénie. Et quel intérêt ça a ce rôle-là? Bah, ça veut dire que vous avez l'autorité de vider une institution. Parce que du coup, si la personne, elle rentre et que vous dites, mais en fait, elle n'est pas une démence précoce, elle est schizophrène, faites-la sortir. C'est ça l'idée. Et donc, du coup, l'idée, c'était un enjeu économique de pouvoir vider les institutions et on a réussi à créer un diagnostic à partir de là. Le diagnostic, il a persisté parce que c'est ce que font les diagnostics. Et le diagnostic, il a été entièrement remodelé dans les années 60 par un type qui s'appelle Schneider. Et, enfin, en tout cas, c'est lui qui a pris le nom parce que les noms, c'est toujours, faut trouver quelqu'un, il faut que ça soit un mec. Et donc, du coup, c'est lui qui était là. Et donc, du coup, Schneider, il a réécrit la schizophrénie du début à la fin et il a dit la schizophrénie, c'est un trépied diagnostique, désorganisation, hallucination, délire. Bam. Bon, il a posé ça là. Et à partir de là, officiellement, c'est ce qui est devenu la schizophrénie. Sauf qu'en fait, là, à l'heure actuelle, c'est toujours pas le cas. Vous avez la Cochrane qui vous fait une revue de littérature. Ils vont regarder dans les études scientifiques les gens étiquetés schizophrènes qui prennent pour faire les études. Ils regardent si ces gens-là ont bien les diagnostics, les critères diagnostiques de Schneider. Et il a 60%, il y a que 60% qui les ont. Donc, il y a 40% des gens qui ont le diagnostic, qui ont été bien choisis par la recherche avec plein de validations de machin partout, qui ont la définition du diagnostic. On sait toujours pas ce que c'est le diagnostic de schizophrénie à l'heure actuelle. Et il y a un bouquin qui est hyper intéressant, si ça vous intéresse ce sujet-là, à lire. C'est The Protest Psychosis. Alors, il a été traduit en français, mais j'ai plus le titre en français. C'est par Metzl, Jonathan Metzl. Et sur la base d'analyse, c'est un psychiatre américain. Et sur la base d'analyse de dossier d'un hôpital pénitentiaire psychiatrique américain, il relate l'histoire du diagnostic de la schizophrénie à travers tout le XXe siècle aux États-Unis, en montrant comment, au début du XXe siècle, c'était un diagnostic pour les femmes qui arrêtaient de faire le ménage. Vers le milieu du... Bah, littéralement, hein, c'était... quand vous prenez les premiers cas cliniques, c'était un matin, elle devait se lever, se maquiller, emmener les enfants à l'école, aller faire les courses, s'occuper de la maison, récupérer les enfants à l'école et faire à manger. C'est ça le truc qu'on demande. Elle a arrêté de se maquiller. Elle a commencé à plus vouloir emmener les enfants à l'école. Et quand son mari l'a emmenée en course, elle a fait une crise dans le magasin. Crise dans le magasin, trouble à l'ordre public, intervention des forces de l'ordre, évaluation, estimée folle, transfert à l'hôpital psychiatrique d'Iowa, morte à l'hôpital psychiatrique d'Iowa, elle n'a jamais sorti de sa vie. Et cette dame-là, c'est typiquement le diagnostic de schizophrénie du début du XXe siècle. Puis après, ce diagnostic a changé parce que après, il y a eu les problèmes des droits des personnes de couleur aux États-Unis. Fait chier. Qu'est-ce qu'on fait avec les mouvements des droits sociaux? Ça fait yesh. Et donc, du coup, parce qu'avant, on était tranquille, parce que les personnes noires aux États-Unis, elles étaient psychopathes et ça allait. Et le problème, c'est que là, il y en a eu beaucoup. Et comme il y en a eu beaucoup, elles sont devenues psychotiques. Et donc, du coup, la schizophrénie a été reprise par les personnes noires dans les années, a été reprise par les personnes blanches pour désigner les personnes noires dans les années 60-70, à partir des années 60-70 aux États-Unis, parce que c'était ça, là, le besoin politique du moment. C'est-à-dire que le besoin politique, il était plus sur la question de la domination de la femme dans cet âge du quotidien, il était sur la question de la domination raciale. Et donc, du coup, la schizophrénie, c'est devenu ça. Et c'est vachement intéressant parce que dans son bouquin, il vous le montre bien parce qu'il prend il vous prend des dossiers tranche d'année en tranche d'année et vous voyez l'évolution des profils des gens. Et puis, vous voyez maintenant, en plus, quand vous avez un regard actuel sur ça, vous voyez bien que c'est pas comme ça qu'on diagnostiquerait et les entités, elles ressembleraient pas à ça. Ouais, Joanne?
Tu viens d'utiliser le mot psychotique, du coup, je me suis perdu. Comment tu distingues schizophrénie et psychotique?
Alors, psychotique, c'est pas forcément un mot que j'utilise pour rigoler. Donc, on va pas aller plus loin que ça. Moi, quand j'utilise psychotique, je l'utilise là, en l'occurrence, au sens psychiatrique de la CIM, c'est-à-dire le chapitre, anciennement le chapitre F2, le chapitre sur les diagnostics des troubles délirants. Et en fait, parce que c'est pour ça que là pour le coup, si tu veux, j'ai utilisé psychotique parce qu'en fait c'était pas que la question de la schizophrénie, c'était parce qu'en fait ils sont allés plus loin que ça, les chercheurs à cette époque-là. C'est pour ça que le bouquin s'appelle The Protest Psychosis. C'est parce qu'en fait ils ont créé un nouveau diagnostic qui s'appelait la psychose de protestation pour désigner ces personnes noires aux États-Unis qui étaient persécutées par des personnes blanches qui soi-disant viendraient leur pourrir la vie, les menaceraient, brûleraient des croix sur leur jardin et tout n'importe quoi, des choses comme ça. Et donc ils ont été créés, ce diagnostic-là. Et c'est vachement intéressant parce que si vous allez sur la base PubMed là tout de suite et que vous tapez Protest Psychosis, vous avez encore l'article qui date de 63, je crois, ou 68, un truc comme ça, qui est encore référencé dans la base PubMed, l'article qui s'appelle The Protest Psychosis et qui crée cette nouvelle entité diagnostique en disant on a découvert un nouveau trouble délirant chez les personnes noires. Et maintenant, rétrospectivement, avec le recul, on se dit, bah non, c'est n'importe quoi. Vous avez utilisé la psychiatrie pas des fins politiques en faisant ça. Mais à l'époque, ils le voyaient pas, les gars, parce qu'ils sont nés dedans. C'est ça qui est intéressant. Un autre diagnostic qui est intéressant dans ce genre-là, c'est la drapétomanie, c'est connu. La drapétomanie, c'est beaucoup plus ancien, mais c'était la maladie que certains esclaves noirs avaient. C'était une maladie mentale, et en fait, ils essayaient de s'enfuir. Et c'était pas logique. C'était pas logique parce que avec la logique de l'époque, comment expliquer ça ? Avec la logique de l'époque, la Bible disait que l'homme noir devait servitude à l'homme blanc. Hein, c'est l'histoire avec les trois enfants d'Abraham. Enfin, c'est évident. Hein. Et donc du coup, mais en contrepartie, l'homme blanc devait bien traiter son esclave. D'ailleurs, enfin, c'est écrit dans la Torah, hein, tout ce que vous devez faire en temps d'engagement là-dessus. Donc du coup, quand un esclave s'enfuit, il y a deux possibilités. Soit il est maltraité et à ce moment-là, c'est répression pénale sur le propriétaire. Soit il est bien traité et un esclave bien traité qui s'enfuit, c'est contre nature, donc il est fou. Et donc du coup il est fou et en l'occurrence c'est la drapétomanie. Drapétomanie, c'est le besoin de courir, c'est ça que ça veut dire étymologiquement. Et du coup le traitement à l'époque c'était traitement chirurgical et c'était l'ablation de deux gros orteils, puisque quand vous avez plus de gros orteils, vous courez plus. Et donc du coup en fait, et le diagnostic a été créé par un orthopédiste. Donc enfin c'est intéressant, je veux dire, on voit toujours qu'à chaque fois qu'il y a un concept qui se crée, il y a un besoin, il y a un contexte dans lequel les savoirs se créent, il y a un besoin auquel les savoirs viennent répondre. Et donc du coup la question de se dire comment ça se fait qu'à l'heure actuelle, on vive dans une société qui soit à ce point polluée des savoirs psychiatriques au point qu'on arrive à se conceptualiser nous-mêmes ou nos proches en utilisant cette grille-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui n'a pas coté comme ça cote ce que je raconte pour les personnes de couleur chez certaines personnes et comme ça peut coter sur les questions de genre chez d'autres personnes. Parce que si là tout de suite j'arrive et que je commence à expliquer qu'en fait les femmes font plus la vaisselle parce qu'elles sont mieux équipées pour, parce qu'avec leurs petits doigts fins elles peuvent enlever les trucs, c'est-à-dire, les gens vont me regarder et vont me dire que je suis quand même un petit peu misogyne ou en tout cas que c'est un peu discriminatoire mon propos. Mais si je venais raconter des trucs sur les personnes avec un diagnostic de schizophrénie, de machin chose, personne me dirait que c'est discriminatoire. Les gens m'écouteraient en disant, oh, c'est hyper intéressant. C'est vrai, ils pensent vraiment comme ça. Parce que on n'a pas coté dans notre tête que c'était une question de discrimination. Et ça, je pense que c'est, et je voudrais terminer peut-être mon blabla, parce que je sais pas où j'en suis, mais je blablate, quoi. Mais je voudrais peut-être prendre un petit temps là-dessus, sur cette idée-là, de se dire qu'en fait, il y a, tout ça, c'est extrêmement politique. Et quand je dis tout ça, c'est extrêmement politique. C'est, on va parler vite fait militantisme et comprendre qu'en fait, il y a rien qui est pas politique dans la vie. C'est-à-dire que soit vous allez avoir des gens qui vont se revendiquer d'un militantisme, notamment c'est principalement les gens qui viennent de groupes oppressés. Et les gens qui viennent de groupes oppressés vont dire je veux que ça change, marre d'être oppressé. Soit vous allez avoir les gens qui vont être du groupe oppresseur et qui eux vont pas politiser leur truc, mais qui en fait est extrêmement politisé. Je sais pas si c'est très clair. Je sais pas si c'est plus simple. Vous voyez, par exemple, des gens qui attaquent les autres en disant c'est de l'idéologie ce que tu racontes. Bon, bah, c'est cool, ouais. C'est de l'idéologie ce que je raconte. Mais en fait, ce que toi aussi tu racontes, c'est de l'idéologie. Puis en fait, ce que tout le monde raconte, c'est de l'idéologie. Parce que par définition, l'idéologie, c'est qu'une fois que vous avez décrit ce qu'il y a sur votre table avec vos petits Playmobil, que vous avez fait votre paradigme et vous avez dit, moi, je vois ça sur la table. Et ben, l'idéologie, c'est quelle histoire vous allez raconter? Qu'est-ce que vous allez faire de vos petits Playmobil sur la table? Ah, ben, machin va sauter par la fenêtre pour aller rejoindre Bidule, machin, et acheter du boulot à la boulangerie. Enfin, c'est ma petite histoire. C'est comme ça que je vois que les choses vont se passer. Et l'idéologie, c'est comment est-ce que je pense que les choses devraient se passer. Et donc, concrètement, vous avez deux trucs dans l'idéologie. Vous avez les gens qui pensent qu'il faudrait que ça change et les gens qui pensent qu'il faudrait que ça change pas. Et les gens qu'il faudrait que ça change, ils sont politisés. Et les gens qu'il faudrait que ça change pas, ils ne sont pas politisés. Et donc, comme par essence, tous les sujets sont politiques, on l'a vu, hein, la discipline psychiatrique, elle a, je sais pas, j'espère que c'était assez prégnant dans ce que je raconte, mais elle a été inventée pour un besoin social. C'est pas une évidence de la nature. La psychiatrie, c'est on a besoin social. On a besoin de quelqu'un qui mette des tampons sur des papiers. Donc, inventez-nous du blabla, racontez-nous des trucs, mettez-vous des costumes, donnez-vous des noms, des titres, faites vos trucs. On s'en fout, mais moi, je veux un tampon sur mon papier. Et donc, l'idée, c'est ça. Et donc, comme on est dans des trucs qui sont extrêmement sociaux, l'idée, c'est de se dire, si quelqu'un en face de vous dans le discours met l'emphase sur le caractère politique de sa recherche, vous pouvez à quasi coup sûr savoir, vous dites que vous êtes dans le cadre d'une recherche minoritaire, quelque chose de militant, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça peut être ce qu'on nous dit sectaire quand on n'aime pas, mais je veux dire, en tout cas, quel qu'en soit, c'est apparemment politique. Et quand vous avez une recherche qui est dépolitisée, eh ben, du coup, en fait, elle est aussi politique, c'est juste qu'elle est du côté dominant. Et donc, les gens qui viennent vous parler de neurotransmetteurs, de cerveau, de molécules, d'inflammation, de machin, de trucs comme ça, en fait, ils viennent vous parler de ça et c'est hyper intéressant. Mais pendant ce temps-là, ils viennent pas vous parler d'autre chose. Et donc, du coup, la question post-constructiviste, c'est de dire pourquoi ça et pas autre chose? Pourquoi vous me parlez de neurotransmetteurs, du récepteur GABA, dotamine, machin, truc? Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte? Moi, j'ouvre les yeux et je vois qu'on est dans une société hyper inégalitaire avec des gens qui crèvent de faim dehors. Et vous, vous me parlez du récepteur GABA. Comment vous faites le lien? Et en fait, c'est ça la question. Parce que pendant qu'on passe du temps à chercher sur toutes ces conneries, on passe pas du temps à chercher sur autre chose. Et ça, moi, je peux le dire, je suis trans. Et comme je suis trans, on est extrêmement victime de ça. C'est-à-dire que, en question de trans, nous, on n'a pas la chance des personnes folles, parce que autant les personnes folles attirent le fantasme des psychiatres. Les psychiatres qui, des fois, ils se lèvent à 2h du matin pour écrire un truc sur les personnes folles, parce que ça les fascine, quoi. Ils sont omnibilés. Autant, nous, les trans, c'est vachement moins intéressant. Donc, on a vachement moins de volume de publications. Et en plus de ça, la majorité des publications qu'on a, elles sont sur des trucs inintéressants, mal posés et nul à yèche, qu'on peut foutre à la poubelle juste en lisant le titre. Et c'est voulu. Parce que pendant qu'on passe des budgets et du temps à faire des recherches inutiles à la con, on passe pas ce temps-là à poser des questions plus intéressantes. Et l'idée, c'est de comprendre les enjeux comme ça. Et donc, en fait, quand on se dit « la psychiatrie, elle est rentrée dans ma tête de manière assez simple. Elle est là dans la société, la psychiatrie. Elle est l'émanation normale de la société. Elle marche normalement, elle fonctionne bien et la société fonctionne plutôt pas trop mal. Elle est dans la société. » C'est comme le sexisme, il est dans la société. Donc, le sexisme, il est dans ma bouche à partir du moment où je vis dans cette société. Donc, si je veux que le sexisme soit plus dans ma bouche, si je veux commencer à ne plus me lire et à plus lire les autres avec une grille psychiatrique, je suis obligé de déconstruire ce truc-là. Et ce truc-là, il a des ramifications énormes dans ma vie. Et donc, du coup, en fait, c'est pas juste une question de comment est-ce qu'on parle, de dire un trouble psychique ou de machin chose, c'est une question de se dire, ok, si je ne veux plus utiliser le concept, tu vois, là tout de suite, t'es dans mon salon, t'es en train de hurler, tu ne te contrôles pas, t'es en train de péter mes verres par terre, et je ne veux pas que dans ma tête, il y ait une seule pensée qui te considère folle. Je veux te considérer légitime en tout état de fait, là tout de suite. V'là le bazar que c'est d'arriver à faire ça légitimement dans une vraie situation de vie. C'est ça qui est difficile. C'est à quel point c'est ancré à l'intérieur de quelque chose de global. Moi, je pense que quelqu'un qui est intéressant, pour faire des parallèles, c'est mon orthophoniste. Alors qu'il n'a pas forcément fait du bon boulot, comme vous pouvez l'entendre, mais au-delà de ça, mon orthophoniste, elle s'est mise à bosser avec les personnes trans, un peu par un challenge, hein, parce qu'elle n'a pas du tout été formée, comme tout le monde, et puis parce que en fait, il y a eu d'un coup un besoin, il y a un projet qui s'est monté, et elle se dit, vas-y, moi, 95% de mon activité professionnelle, la rééducation de voix de personnes trans, j'y connais rien, personne n'a jamais fait, j'adore, j'y vais, elle y est allée. Ok, elle y est allée. Et en fait, côtoyer des personnes trans à ce volume-là, elle qui était une personne cis hétérosexuelle, ça a remis en cause beaucoup de choses dans sa tête. Ça a déconstruit beaucoup de trucs. Elle s'est réinterrogée beaucoup de fois sur son histoire, sur comment elle vivait, des choses comme ça. Et quand vous discutez avec, entre-temps, elle a divorcé. Elle s'est remariée. Elle est toujours hétérosexuelle et cisgenre, hein. Pas tant de contamination que ça. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été déconstruites en termes de comment est-ce qu'elle se conceptualise, comment est-ce qu'elle vit et comment est-ce qu'elle positionne les choses. C'est des tout petits morceaux qui ramifient sur des très gros morceaux de société. C'est renoncer à un pouvoir énorme d'arrêter de pouvoir qualifier l'autre personne en face de folle. Parce que si vous dites à l'autre personne en face qu'elle est folle, le seul truc qui vous reste après, c'est deux, trois petits coups pour que ça colle sur sa tête et après, c'est gagné. Et c'est quand même énormément utilisé. Normalement, c'est notamment énormément utilisé dans la misogynie. Enfin, je veux dire, tout le monde sait très bien que pour gagner une argumentation face à une femme hétérocis, globalement, ce qu'il faut faire, c'est un tout petit peu de provoque. Elle commence à s'énerver, lui dire qu'elle est hystérique et t'as gagné. Enfin, je veux dire, c'est le move classique. Tout le monde le connaît. C'est facile. Moi, je l'ai vu faire dans des réunions à des niveaux d'instance très différents, mais tout le monde le maîtrise, quoi. Et donc, du coup, si jamais vous vous dites, OK, merde, c'est-à-dire que vous perdez aussi l'hystéro, quoi. Enfin, je veux dire, quelque part, si vous voulez plus considérer vos proches en termes de maladie mentale, vous pouvez plus être autant misogyne qu'avant, ça pue. C'est quand même utile, la misogynie, c'est pour ça qu'on l'a. Et donc, du coup, y a quand même cette idée de se dire que c'est quand même une ramification globale. Et donc, c'est cette idée de se dire qu'en fait, ça, c'est un combat qu'il faut comprendre comme étant un combat global. Ou si on veut prendre des mots un peu plus modernes, intersectionnels. C'est-à-dire, c'est de se dire qu'en fait, nous, on a cette conceptualisation qui est découpée par morceaux. Les femmes, les folles, les personnes de couleur, les machins, les bidules. Mais la société et le monde, ils fonctionnent pas comme ça. Fondamentalement, la société, elle en a rien à battre que vous soyez de telle case ou de telle case. Si elle veut que vous dégagiez, elle trouvera une case pour vous faire dégager. Et s'il n'y en a pas, elle en mettra une et vous dégagerez. Donc, fondamentalement, c'est une mécanique de système, c'est une mécanique d'oppression. C'est pour ça que les gens qui travaillent dans une logique post-constructiviste, ils parlent de système d'oppression. Ils parlent de système d'oppression parce qu'ils parlent de gens, de groupes qui ont de l'emprise sur d'autres groupes. Et déconstruire des logiques d'oppression, c'est pas juste déconstruire la logique d'oppression de la psychiatrie, mais c'est déconstruire la logique d'oppression et différentes instanciations qu'elle a. Parce que quand il s'agit d'enfermer les gens dans des asiles ou quand il s'agit de les parquer dans des trains, les gens ne découpent pas. Et pourtant, ce que vous voyez en pratique, c'est que les luttes politiques, elles sont découpées. Les personnes travailleuses du sexe militent dans leur pour leur chose. Les personnes trans militent de leur côté. Même nous, au sein des LGBT, on a du mal à avoir une vision unie et un combat qui est uni. Les personnes handies militent de leur côté. Les personnes folles militent de leur côté. Et du coup, on a cette espèce de découpage des gens par population qui vont aller trouver des solutions uniques et innovantes à un problème qui est commun. Et donc, du coup, c'est pas très, très logique. Et donc, fondamentalement, la réponse la plus évidente sur pourquoi est-ce que je conceptualise ma propre vie en utilisant la psychiatrie, c'est parce que je suis pas très forte et que c'est beaucoup de boulot et que c'est fatigant. Et comment est-ce qu'on pourrait faire une alternative? Bah, faire une alternative, c'est construire une herméneutique. Ça veut dire, c'est construire d'autres façons. C'est construire une autre histoire. C'est que là, tout de suite, t'es dans mon salon en train de péter un câble et de péter tous mes verres par terre, mais j'ai une autre histoire sous la main que de te traiter d'hystérique. J'ai une autre façon de voir le monde.
Voilà. Eh bien, voilà, ça se termine un peu brutalement.
Et donc, du coup, c'est pas très, très logique. Et donc, fondamentalement, la réponse la plus évidente sur pourquoi est-ce que je conceptualise ma propre vie en utilisant la psychiatrie, c'est parce que je suis pas très forte et que c'est beaucoup de boulot et que c'est fatigant. Et comment est-ce qu'on pourrait faire une alternative?
Voilà, c'était donc Anna Balège qui intervient dans le cadre d'un forum du Rêve France le 10 décembre 2022. Un discours des idées en psychiatrie, l'histoire des idées en psychiatrie. Et puisque nous parlons de du Rêve France, il y a eh bien très bientôt le 14e congrès mondial Intervoice, les 26 et 27 octobre 2023 à Paris. Donc là, on peut trouver cette info sur le site du rêve, rêvefrance.org, et on peut aussi écrire à l'adresse suivante, qui est une adresse électronique, Lille 2023, Lille comme la ville, mais sans majuscule, Lille 2023, @ refrance, refrance.org. Ainsi se termine l'entonnoir pour aujourd'hui. Et nous vous disons bien certainement à la semaine prochaine.
Et donc du coup